Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Surtout, n'y allez pas, Marine Le Pen et Najat Vallaud-Belkacem sont au moins d'accord sur un point. Elle déconseille à leurs partisans, ceux du Front National comme ceux du Parti Socialiste, de se mêler de la primaire, de la droite et du centre. Ce n'est pas notre affaire, dit la première. Ce serait totalement malsain, ajoute la seconde. Alors ce double rappel à l'ordre sera-t-il entendu? Du côté des candidats en lice pour cette primaire, la tentation est grande, en tout cas d'aller chercher ailleurs que dans leur seule famille politique, les voix qui pourraient leur permettre de se qualifier pour 2017. Ils seront 7 à s'affronter le 20 novembre, avant un probable second tour, une semaine plus tard. Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy. Il y a 5 ans, la gauche avait inauguré cette pratique de la primaire en choisissant celui qui était considéré comme le mieux placé pour l'emporter au printemps face au président sortant. Le ressort sera-t-il différent cette fois-ci? Les électeurs de droite vont-ils choisir le candidat le plus performant dans les sondages ou bien celui ou celle qui défend le plus fidèlement leurs idées? Mais peut-être s'agit-il d'une seule et même personne. Alors, qui incarne le mieux les idées de droite? Et bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Pascal Perrineau, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, vous êtes professeur à Sciences Po, vous avez pendant de longues années dirigé le CEVIPOF. Je citerai votre dernier ouvrage publié chez Fayard, c'était en 2014, « La France au front ». Pour discuter avec vous, Christelle Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Atlantico, vous suivez la politique française depuis 1999, ça c'est ce qu'on peut lire, hein, sur notamment la quatrième de couverture du livre que vous avez publié en 2014 aux éditions du Moment, « Chronique d'une revanche annoncée », la revanche annoncée, c'était celle, et c'est toujours celle, de Nicolas Sarkozy. Et puis notre troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu, Vaucluse, à Avignon. Il s'agit d'Hubert Bertaz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, chroniqueur à Mediapart, ex de France Culture, ancien patron du service politique de notre chaîne. Vous avez publié vos éditions de l'Archipel, c'était en 2013, La guerre des deux droites. Alors pour commencer, je voudrais demander un petit peu comment on le fait dans les mariages à l'église ou à la mairie, je crois que c'est surtout à l'église d'ailleurs, si il y a des gens qui considèrent que dans le couple, par exemple, il y a des intrus. Alors là, c'est pas un couple, ce sont 7 candidats, mais est-ce qu'on peut dire, Pascal Perrineau, que parmi ces 7 candidats de la primaire de la droite et du centre, tous appartiennent bien à cette famille politique, ou bien est-ce qu'il y en a qui pourraient venir d'ailleurs?
Non, il n'y a pas d'intrus. Ils appartiennent tous à cette famille politique qui est une famille plurielle. Si vous voulez, quand vous regardez la droite et le centre en France sous la Ve République, il y a toujours eu plusieurs familles de la droite. Hein. Le grand analyste des droites, qui était René Raymond, constatait bien, sous la Ve République, qu'il y avait, disait-il, les héritiers de ces trois droites. Il y avait certaines, parmi ces trois, il y en avait deux qui comptaient, ce qu'il appelait la droite bonapartiste, très fascinée par le culte du chef, avec une tripe un peu nationale, parfois nationaliste, et puis une droite plus modérée, plus sensible aux notables de région, très réticente par rapport à une figure de chef trop affirmé, vous retrouvez
ça, aujourd'hui. C'était la droite orléaniste.
Voilà.
Et puis il y avait la légitimiste qui était beaucoup.
Légitimiste qui est relativement marginale et qu'on ne retrouve aujourd'hui qu'à l'état de bribe, parfois d'ailleurs même jusqu'au cœur du Front National. Si vous voulez, ces deux droites, elles sont là historiquement, elles correspondent à des électorats différents. Hein. Il y a des électorats différents. Puis il y a eu toujours eu, quand vous regardez toutes les présidentielles sous la Ve République, il y a eu toujours l'affrontement de deux hommes. Hein, un homme qui représentait l'héritage du gaullisme, l'héritage du bonapartisme, et puis un homme qui représentait davantage cette droite orléaniste, cette droite de région. Pensez à des personnages comme Valéry Giscard d'Estaing, puis après comme Raymond Barre, comme Édouard Balladur, comme François Bayrou, plus aux marges du centre. Il y a là un tempérament qui est assez différent du tempérament un peu plébiscitaire, un peu vertical, que représente encore aujourd'hui, par exemple, un homme comme Nicolas Sarkozy.
droite bonapartiste, droite orléaniste. C'est une grille de lecture, cette grille de lecture de René Raymond qui est encore pertinente pour vous aujourd'hui, Christelle Bertrand. Et ces deux droites-là sont bien représentées dans la primaire qui aura lieu au mois de novembre.
Les lignes ont bougé et on aurait pu rajouter cette exception française qui était le gaullisme, qui était encore quelque chose d'un peu différent. Moi, ce que je trouve étonnant dans le paysage politique français, le paysage de la droite aujourd'hui, c'est que chacune de ces droites, qui, je suis d'accord, ont toujours existé, ont du mal à s'accepter aujourd'hui en tant que droite, en tant que représentant la droite. C'est-à-dire que chacun conteste à l'autre le fait d'être réellement de droite. Nicolas Sarkozy disant d'Alain Juppé, il fraye quand même dangereusement avec la gauche. Et Alain Juppé renvoyant cette image ce week-end d'un Nicolas Sarkozy qui fraye dangereusement avec l'extrême droite. Chacun a du mal à se considérer comme appartenant finalement à la même famille politique alors qu'ils sont issus du même parti politique.
Et donc ça veut dire que chacun se revendique comme étant le vrai représentant de la droite.
Absolument, absolument.
Hubert Bertas, c'est aussi votre analyse.
Ben moi je crois qu'on oublie un parti. J'ai un retour légèrement décalé dans mon casque là, qui est un petit peu compliqué à gérer. Je m'adresse à la régie. Donc je pense que, et je vais enlever mon casque, je pense que on oublie aussi un troisième larron. Naturellement, on retrouve la perpétuation de cette droite bonapartiste. Donc actuellement, c'est plutôt Sarkozy, une droite qui est, on peut dire, légitimiste, parlementariste, un petit peu plus modérée. Pour l'instant, c'est Alain Juppé. Il faut pas oublier aussi que en 1981, il y a une composante qui est arrivée, une composante ultra bonapartiste, le Front National. Là, plus bonapartiste, on ne peut pas faire. Et ce Front National, qui n'a cessé de croître, est venu troubler le jeu. Et le jeu, aujourd'hui, il est plus trouble que jamais. Parce que c'est par rapport au Front National que nos fameuses de droite ont tendance à se situer aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du Front National? Et donc, on est moins travaillé par l'idéologie, par l'idée qu'on se fait de la société, par l'idée qu'on se fait de ce qu'on est, plutôt que de l'idée de ce qu'on doit faire par rapport au Front National. Est-ce qu'on doit l'imiter, comme on en fait le reproche à Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'on doit s'en tenir un petit peu plus loin, ou beaucoup plus loin, comme est réputé le faire Alain Juppé?
Mais Hubert Bertas, est-ce que finalement la primaire ne va pas servir à ça, c'est-à-dire à répondre à cette question que vous évoquez?
Alors la primaire, je me demande si la réponse ou si la question que ressentent, que peuvent ressentir les électeurs et les Français en général, c'est celle de l'idéologie et c'est celle du Front National. Moi je me demande si c'est pas beaucoup plus simple. Il y a le retour annoncé de Nicolas Sarkozy, personne extrêmement typé, extrêmement adoré par un certain nombre, par un noyau de militants, et extrêmement rejeté par une bonne partie du pays aussi. Et je suis pas le premier à le dire, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'au-delà des idées, qu'on écoute d'une oreille plus ou moins attentive, même au niveau économique, je crois qu'il y a, est-ce que on veut un autre mandat, et peut-être deux, parce qu'il aurait droit à deux mandats, de Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'on n'en veut pas? Et j'ai quand même un peu l'impression que c'est la question qui se pose, et qui fait que cette primaire, c'est pas seulement la primaire de la droite, c'est la primaire du pays, parce que le pays se demande, enfin, a tendance à penser que l'élection présidentielle, elle va pas se jouer en mai, mais qu'elle va se jouer en novembre.
Bon, alors, il y a peut-être plusieurs éléments de réponse qui finalement sont attendus dans cette primaire. Pascal Perrineau, soit une forme de clarification idéologique de ce qu'est la droite aujourd'hui à travers celui ou celle qui l'emportera, soit une clarification stratégique, comment se positionner notamment par rapport au Front National, ou alors une clarification par rapport à Nicolas Sarkozy qui semble une nouvelle fois, comme en 2012, mais dans des circonstances évidemment différentes, cristalliser autour de lui, soit l'adhésion, soit le rejet.
Toutes ces clarifications sont à l'œuvre, elles viendront à l'issue de la primaire. Dans les deux mois qui nous séparent de la primaire, cette clarification n'est pas encore faite. Il faut attendre en particulier les débats. Mais vous voyez bien déjà que sur la question du Front National, les préoccupations vis-à-vis du Front National, pas simplement les stratégies, la manière dont on reprend tel ou tel thème, eh bien, ça n'est pas la même chose quand on écoute Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas la même chose. Il y a bien des sensibilités différentes vis-à-vis de la question du Front National et des thèmes que véhicule le Front National. Donc il y a, au-delà de la pluralité des hommes et des femmes, il y a une pluralité de sensibilité, je ne dirais peut-être pas d'idée. Bien sûr que ces hommes et ces femmes partagent des choses en commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se retrouvent, pour l'immense majorité d'entre eux, sauf Monsieur Poisson, qu'ils se retrouvent dans le parti Les Républicains. Mais vous pourrez prendre autre chose que le Front National, sur des thèmes de société, par exemple sur l'attitude à avoir vis-à-vis du mariage pour tous et des avancées, entre guillemets, qui pourraient suivre maintenant le mariage pour tous. Vous n'avez pas les mêmes réponse de la part des candidats. Donc il y a bien des sensibilités différentes, il y a bien des stratégies différentes, parce que au soir du second tour, le 27 novembre, il faudra bien que le candidat soit repositionné, comme on dit aujourd'hui, au cœur de la droite et du centre, s'ils veulent l'emporter lors de l'élection présidentielle. Et là, je crois que beaucoup d'électeurs, hein, aujourd'hui on estime qu'il y aurait peut-être 3 millions d'électeurs, ça n'est pas rien de droite et du centre qui se mobiliseraient, beaucoup d'électeurs, ils ont cette question en tête. Quelle est celle ou celui qui sera le plus capable d'être au cœur du peuple diversifié que nous représentons, ce peuple de droite et du centre.
Et pour, sans, l'émission est encore loin d'être terminée, Pascal Perrineau, mais si vous deviez répondre au bout de 10 petites minutes justement à cette question de qui, finalement, aujourd'hui, en tout cas on verra bien ce qu'il adviendra à l'issue des deux tours de la primaire, mais qui aujourd'hui se situe le plus au cœur de cette famille de la droite et du centre, vous répondriez qui ?
Alors, aidé par les enquêtes, tout simplement, il faut regarder l'homme qui est le plus capable de rassembler une majorité très forte au second tour de ces électeurs de droite et du centre qui auront à dire leur mot. Et pour l'instant, ça peut changer bien sûr dans les semaines qui viennent, c'est Alain Juppé, de manière claire. Alain Juppé fait un score beaucoup plus élevé que Nicolas Sarkozy dans un second tour, et il fait encore, bien que le différentiel ait été réduit, un score sensiblement plus élevé que Nicolas Sarkozy au premier tour. Ça veut dire que ce qu'il représente, le message qu'il représente, est davantage au cœur de cette galaxie que ne l'est Nicolas Sarkozy. Et au second tour, quand vous regardez ce que ferait les électeurs qui se retrouveront derrière Bruno Le Maire et François Fillon, s'ils restent en troisième et quatrième position, de manière massive, ces électeurs disent aujourd'hui vouloir se reporter sur Alain Juppé. Donc vous voyez, contrairement à une image qui traîne un peu partout d'un Alain Juppé qui ne serait pas au cœur de la droite et du centre, j'aurais personnellement, à partir des enquêtes, une vision un peu différente.
Vous êtes d'accord avec ça, Christelle Bertrand? Alain Juppé incarnerait davantage la droite, finalement, et le centre, même si le centre est très peu représenté dans cette primaire, que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est capable aussi, peut-être d'ailleurs, d'incarner davantage une droite sociale. C'est ce que vous montriez d'ailleurs dans votre livre, hein, qui avait eu, à un moment donné, après 2012, une volonté de se réorienter, d'être un petit peu moins droitier pour essayer d'aller voir un peu du côté de cette droite sociale
ce qui
se passait. Ce qui finalement, voilà, n'a pas été fait, comme on peut le constater aujourd'hui d'ailleurs.
Non, mais la question qui se pose, c'est de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des idées ou est-ce qu'on parle des hommes ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va ressortir de cette primaire ? Il y a une double grille de lecture. Est-ce que le gagnant sera celui qui aura gagné parce qu'il représente majoritairement les idées de la droite ? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas un tel rejet de la personnalité de Nicolas Sarkozy qu'Alain Juppé va gagner alors qu'il ne représente pas majoritairement les idées de la droite ? Enfin voilà, cette grille d'analyse est complexe, justement parce que la personnalité de Nicolas Sarkozy est clivante. Moi, je crois pour
D'autant qu'en plus, si on se souvient de ce qui s'est passé en 2012 pour la primaire de gauche, on peut éventuellement remettre en question le fait que celui qui a été désigné, en l'occurrence François Hollande, était celui qui représentait le mieux les idées de gauche. C'était peut-être pas lui, c'était celui qui était considéré comme celui qui allait battre Nicolas Sarkozy.
C'est ça, c'est-à-dire que les électeurs se posent aussi la question, et les électeurs socialistes encore plus, se posent la question de qui va nous permettre de gagner, d'emporter finalement la seule élection importante, le second tour de l'élection présidentielle. Donc moi je crois qu'il n'y a pas, il y aura pas de clarification à l'issue de cette primaire, parce qu'il y aura de toute manière, un camp de la droite qui sera orphelin. D'ailleurs, ça pose la question du rassemblement après le second tour de la primaire. Est-ce que ce soit Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, le candidat désigné réussira à rassembler sa famille. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une explosion de la droite? Et d'ailleurs, là, dans le camp juppéiste, la question se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Est-ce que Laurent Wauquiez ne voudrait pas finalement garder la présidence des Républicains? Et est-ce qu'on ne va pas assister à une explosion de cette droite qui, finalement, aujourd'hui, on le voit partout en Europe et aux États-Unis, commence à cohabiter, c'est-à-dire une droite plus modérée et une droite plus radicale à la Trump? Et on voit ces deux droites aujourd'hui émerger un peu partout.
Mais cette difficulté-là, vous la voyez parce qu'il y aurait de trop fortes divergences idéologiques ou parce que le combat sera allé tellement loin dans une forme d'agressivité que ce sera difficile de réconcilier les personnes?
Je trouve qu'il y a de fortes différences et divergences de vues, c'est-à-dire que, en effet, les programmes économiques ne sont pas radicalement différents, loin de là. Finalement, Nicolas Sarkozy s'est rallié à l'idée, puisqu'on en a fait un symbole, de ne pas revenir sur le mariage pour tous. Mais par contre, il y a des différences, il me semble, énormes de vision de l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce débat sur l'identité heureuse développée par Alain Juppé et l'identité moins heureuse développée par Nicolas Sarkozy, on ne voit pas la même vision de l'avenir. On ne guide pas les Français dans la même voie. Et ça, je pense que c'est fondamental. C'est un débat central aujourd'hui.
Hubert Bertas, les divergences au sein de la droite aujourd'hui, elles ne peuvent pas se limiter à la question de savoir si on est pour ou contre Nicolas Sarkozy.
Naturellement, non. Mais on est dans une élection et la présence, je le répète, c'est ce que je disais, il me semble que pour l'instant, on est plutôt dans quelque chose qui ressemble à un référendum que dans une réflexion programmatique destinée à savoir quel est le candidat qui offre la meilleure perspective. Et donc je crois si Alain Juppé est si bien placé, c'est pas forcément parce que il ressemble davantage à la droite, parce qu'il est le candidat qui incarne mieux l'idée de la droite. C'est aussi, comme l'était François Hollande, le candidat dont on estime qu'il est le mieux à même de barrer la route à Nicolas Sarkozy. Ça a l'air un petit peu carré, ce que je dis. C'est pas très glorieux pour la politique, parce que là, on n'est pas dans l'idéologie au sens noble du terme. Hein. On n'est pas dans les idées, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on est dans cette arithmétique, en tout cas, pour l'instant.
Le mieux placé pour barrer la route,
Quel que soit ce gagnant, devra réaliser, se placer au cœur, et là, les choses... Et à ce moment-là, la question politique se posera, elle se posera d'ailleurs, et elle peut se poser avec la même acuité, un petit peu tragique, que ce à quoi on assiste depuis 5 ans avec la gauche. C'est-à-dire qu'on a un candidat qui fait une campagne moins marquée que l'autre et qui pourrait servir au fond de repoussoir. Et puis, au bout du compte, au moment de satisfaire son électorat, il se pourrait qu'il ait quelques difficultés à devenir le candidat de l'ensemble de cette droite. Le problème se posera aussi pour Nicolas Sarkozy. Donc, ce dont parlait Christelle Bertrand, à savoir ce risque d'explosion, il y a longtemps qu'on en parle, on en a parlé au moment de la bataille entre Copé et Fillon. Je crois que c'est une question qui reste ouverte.
Alors, on va justement demander à Pascal Perrineau ce qu'il pense de ce risque d'explosion. Est-ce que la création en 2002 de l'UMP, puis ensuite des Républicains, ne manifeste pas, au contraire, la tentative inverse? Peut-être d'ailleurs, qualifierez-vous cette tentative de succès, d'unifier cette droite, projet ancien et qui finalement semble avoir à peu près fonctionné jusque-là.
Alors, il y a eu la tentative, en effet, portée par Alain Juppé, puis ensuite par Nicolas Sarkozy, de faire de l'UMP le creuset des droites et du centre. Mais ça n'a jamais vraiment réussi. Dès le départ, souvenez-vous, les représentants de l'UDF, nombre de représentants de l'UDF ont refusé d'intégrer l'UMP qui allait devenir les Républicains. Et ça a été le début de ce processus d'autonomisation du centre qui a débouché sur le MoDem aujourd'hui. Et puis ensuite, ceux qui ont fondé l'UDI ne se retrouvaient pas, en effet, ou se retrouvaient mal dans le combat de l'UMP devenu les Républicains. Donc on voit bien, au fond, que le pluralisme dont je parlais au début de la droite française, il est irréductible. La droite française, ça ne veut rien dire de parler à la limite de la droite. Il faut parler des droites, comme ça ne veut rien dire aujourd'hui de parler de la gauche, il faut parler des gauches. Hein. Donc, et même faut parler des centres aujourd'hui. Hein. Voilà, toutes les familles se pluralisent parce que c'est l'ère du temps, parce que les citoyens sont dans des logiques de plus en plus individuelles, on les embrigade de moins en moins dans des familles collectives, et la droite, et à cet égard, les électeurs de droite sont des électeurs vraiment comme les autres. Donc ce projet d'unification, il a échoué. Mais ce qui est très intéressant dans ces primaires, c'est qu'est-ce qui va l'emporter ? Est-ce que ces primaires, parce qu'au fond, les électeurs de droite et du centre, ils n'ont jamais voté à des primaires. On sait maintenant un peu comment les électeurs de gauche, en 2011, se sont appropriés ce processus, mais pour la droite et le centre, on ne le sait pas, alors que vous le savez. L'idée de la primaire, ça a été lancé dans la vie politique par un homme qui s'appelait Charles Pasqua, qui était au cœur de la droite, mais qu'on avait assez des conflits de chefs, et qui s'était dit lors du conflit Chirac-Balladur, eh bien on va essayer de régler ça par une primaire. Il n'y était pas parvenu, mais il faut savoir que la primaire au début, c'est une idée de droite, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et comment le peuple de droite et du centre va s'approprier ce processus ? Il y a ce qu'espèrent Nicolas Sarkozy et les Sarkozys, que ça reste très collé à l'appareil des Républicains. Au fond, que ce ne soient pas vraiment les électeurs, mais des militants ou des sympathisants des Républicains qui y aillent. À ce moment-là, si c'est ce noyau dur, Nicolas Sarkozy est bien placé. Mais en revanche, si comme ça s'était passé à gauche en 2011, les électeurs vraiment s'approprient ce processus et aient envie vraiment de dire leurs mots, eh bien les logiques d'appareil seront mises à terre. Et ce sont d'autres candidats, du type Alain Juppé, peut-être Bruno Le Maire s'il opérait un retour, ou François Fillon, qui seront favorisés. C'est très important cela, parce que, observez tout de même qu'en 2011, le chef de l'appareil à gauche était qui ? C'était Martine Aubry. Elle a été battue. Est-ce qu'il en sera de même cette fois-ci pour le chef de l'appareil de la droite, qui est Nicolas Sarkozy ?
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Qui incarne le mieux les idées de droite dans la perspective de la primaire de la droite et du centre ? C'est la question que nous posons ce soir à Pascal Perrineau, Hubert Bertas et Christelle Bertrand. Christelle Bertrand, je ne sais plus si c'est vous tout à l'heure qui nous expliquiez que sur le terrain économique, disons, et social, les différences entre les différents candidats de cette primaire étaient assez peu importantes. On peut parler de nuances, mais pas de vraies différences. Les observateurs notent en général une forme de conversion au libéralisme. Il y a quelques années de cela, quand on parlait de libéralisme à droite, on pensait Alain Madelin, et puis c'était à peu près un des rares à incarner justement cette tendance. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Comment est-ce qu'on explique ce succès, cette adhésion aux thèses libérales à droite ? Est-ce que c'est parce que c'est un mouvement de fond qui emmène tout sur son passage, y compris d'ailleurs certains à gauche ?
Oui, je pense que, en effet, c'est un mouvement de fond et qui n'est pas propre à la France, qui est beaucoup plus général que ça. Et on assiste même à une espèce de rivalité, la course au libéralisme entre François Fillon, qui veut se poser comme étant le plus libéral de tous. Et ce qui est étonnant, c'est
à qui fera le plus d'économies, voilà, supprimera le plus grand nombre de postes de fonctionnaires, par exemple.
Absolument. Alors que les conseillers de Nicolas Sarkozy, avant l'été, lui avaient suggéré, en effet, d'incarner quelque chose de différent, puisque quand même, cette course au libéralisme, elle laisse en jachère un terrain qui est plus protectionniste, qui existe aussi à droite. Hein,
Ce serait quoi la version plus gaulliste, disons ?
Plus sociale, oui, la version absolument de cette droite gaulliste, gaullienne, qui protège un peu les plus faibles, qui érige quelques frontières, sans parler de s'enfermer derrière des murs. Mais certains des conseillers de Nicolas Sarkozy lui avaient dit le thème de la protection va être quelque chose d'important dans cette campagne. Et après l'été, je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé. Finalement, toutes ces préconisations, en tous les cas, ont été mises à l'écart. Et on voit un Nicolas Sarkozy qui est en effet exactement sur le même terrain qu'Alain Juppé. Ça me semble peut-être une erreur, parce que je pense qu'il aurait en effet pu se démarquer. Et en tous les cas, on aurait pu avoir un débat économique intéressant, alors que finalement, il n'y a pas de débat et les candidats sont à peu près d'accord sur tout.
Ça aurait peut-être d'ailleurs collé davantage, Pascal Perrineau, avec son style politique à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que voilà, un style plus bonapartiste, le chef, donc qui se place aussi en protecteur de la nation plutôt qu'à que d'avoir une politique, en tout cas un projet libéral où c'est toujours moins d'État, pour résumer.
Et ça aurait eu pour lui, je crois, l'avantage de montrer que Nicolas Sarkozy avait changé, n'était plus tout à fait le même. Alors qu'aujourd'hui, l'anti-sarkozysme réexiste parce que nombre d'électeurs à droite et au centre se disent « mais Nicolas Sarkozy n'a pas changé ». Donc ça lui aurait donné certainement un nouveau type de langage et un nouveau style. Il n'a pas choisi, il a été pris dans ce courant, qui est un courant qui considère en effet qu'en dehors d'une économie libérée, d'un choc de compétitivité, d'un État beaucoup plus restrictif sur les deniers publics, eh bien il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'espace pour la droite. Ce qui laisse d'ailleurs cette thématique de la protection très largement au Front National. Le Front National, aujourd'hui, se bat autour de ce mélange qui est très efficace dans son électorat, d'un protectionnisme à la fois sur le terrain économique et sur le terrain culturel, les deux. Alors, il est vrai que quand on regarde les programmes, ce que j'ai fait avant de venir, des sept, on a des différences de sensibilité, mais sur le terrain économique et social, il n'y a pas véritablement de vraies différences. Et c'est vrai que la droite, cet héritage, qu'on peut appeler l'héritage de la droite sociale, n'est pas pris en charge de manière claire par un des sept candidats. On en trouve des traces, cependant, chez Nathalie Kosciusko-Morizet. On en trouve des traces dans certaines interventions d'Alain Juppé, où il y a une petite sensibilité sur ce terrain. Mais c'est vrai que personne ne s'inscrit dans cet héritage, qui est un héritage important de la droite française, et donc un héritage qui est capté assez largement par Marine Le Pen et Florian Philippot.
Hubert Berthaz, vous qui avez publié La guerre des deux droites, est-ce que vous diriez que ces deux droites dont vous parliez dans votre livre, c'était en 2013, se sont converties de manière plus ou moins poussée, mais enfin, en tout cas, se sont converties au libéralisme?
Oui, elles se sont clairement converties au libéralisme. Et je crois qu'il y a dans cette unanimité quelque chose de révélateur et de symptomatique. Et c'est révélateur de quoi, au fond? C'est révélateur du fait que on a un petit peu oublié ce qu'on appelle l'idéologie, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de la société, de la manière dont elle doit fonctionner. Et les différences se sont un petit peu, et même beaucoup, effacées au profit de quoi? Eh bien au profit de la surenchère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que François Hollande est arrivé au pouvoir et qu'il a mené une politique qui n'était pas conforme à sa campagne électorale. Et donc, il s'est lancé dans une politique assez libérale. Hein, on l'a appelé social-libérale. Bon. Que font les candidats? Eh bien, ils font davantage que François Hollande. Et ils se rejoignent tous, plus ou moins. Alors, est-ce qu'ils sont en cela, dans l'air du temps? Est-ce que ça correspond à un mouvement de fond? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont à contresens. J'ai l'impression qu'après une grande vague qui a commencé en 1980 de libéralisme tout, où l'État était le problème, où il fallait libéraliser à fond, j'ai l'impression qu'il y a quand même un retour. Ce n'est pas tout à fait un hasard si en Allemagne, par exemple, on a instauré un SMIC. C'était quelque chose qui n'allait pas de soi. Or, en France, vous savez, si vous appliquez le libéralisme, on se pose des questions sur l'utilité ou l'inutilité du SMIC. C'est pas un hasard si sur l'ensemble de l'Europe, on a cette demande de protection. C'est ce que Pascal Perrineau vient de dire. Et je crois que cette unanimité sur une question qui va leur poser problème, parce qu'il faut les lire, ces programmes. Nicolas Sarkozy a publié aujourd'hui son programme économique. On se demande vraiment comment il va faire. Parce qu'il peut toujours afficher, parce qu'on l'entend pas trop, qu'il va tailler de façon très importante dans les dépenses qu'on appelle les dépenses sociales. Mais les dépenses sociales, c'est ce que reçoivent les Français. Lorsque l'un dit on va supprimer 300 000 fonctionnaires, mais c'est énorme. Un autre va jusqu'à 600 000. Alors on peut toujours dire fonctionnaire parce que le mot est commode. Mais si vous dites à la place de fonctionnaire on va supprimer les militaires, ah non. Si vous dites on va supprimer les policiers, ah non. Si vous dites on va supprimer les juges, ah non. Si vous dites on va supprimer les infirmières des hôpitaux, ah non, surtout pas. On va supprimer les médecins des hôpitaux, on va supprimer, ah non, surtout pas. Vous savez, les marges, elles sont pas si élevées que ça. Et donc, il y a un affichage dont on peut se demander s'il ne va pas poser problème une fois que l'élu de la primaire, qui vraisemblablement deviendra le président de la République, une fois qu'il sera élu, on se demande s'il va pas avoir de grands problèmes dans l'application de son programme, et si précisément on ne va pas retomber dans ce cercle vicieux qui est reproché par l'électorat, qui est l'absence de sincérité, qui est les promesses non tenues, qui est le mensonge, qui est l'absence de franchise.
Voilà, parce que j'allais justement y venir, Hubert Bertas, avec course, également Christelle Bertrand. Je ne sais pas si vous m'entendez, en fait, quand je vous parle. J'allais justement venir à ce sujet, Christelle Bertrand, c'est-à-dire que finalement, on est dans une primaire, c'est un moment important, mais ça n'est pas non plus l'élection présidentielle. Est-ce que cette surenchère-là dans les programmes, on ne va pas finir par la polir un peu, par l'adoucir un petit peu dans la perspective d'un programme qui puisse être porté par l'ensemble des anciens candidats de la droite qui puissent être qui soutiendront de toute manière leur candidat. Et est-ce qu'il faut vraiment tenir compte absolument de tout ce qui est dans les programmes des candidats de la primaire aujourd'hui?
Alors il peut y avoir différentes attitudes, on ne sait pas encore bien ce que feront les uns et les autres. En effet, on voit que personne ne s'agresse réellement pour pouvoir effectivement se rassembler et ne pas mettre en danger ce rassemblement pour le premier tour de la présidentielle.
Personne ne s'agresse réellement entre Sarkozy et Juppé, c'est quand même assez... C'est super, non?
Ça reste quand même... Enfin, vous n'entendez pas Alain Juppé parler des affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, par exemple. Le ton pourrait être beaucoup plus agressif que ça. Ça a été la même chose entre Martine Aubry et François Hollande. C'est plutôt les entourages qui font monter la tonalité. Mais franchement, entre les candidats, ça reste... Il faut se démarquer, mais sans s'agresser réellement. Sur les programmes, effectivement, on voit bien que le rassemblement peut se faire. Moi, ce que je trouve, c'est que ce sont les électorats qui sont extrêmement clivés. Et c'est là où il y a un doute sur la capacité à rassembler. Alors après, quand je dis on ne sait pas exactement ce que font les uns et les autres, moi j'entends dire aujourd'hui dans l'entourage d'Alain Juppé, mon programme ne changera pas pour séduire les électeurs de Nicolas Sarkozy qui devront se rassembler derrière moi au premier tour de la présidentielle. Je ne ferai pas de concessions majeures, idéologiques majeures, car ma marque de fabrique, c'est la cohérence. C'est là-dessus que j'aurais été élue à la primaire et je ne peux pas trahir ça. Et c'est là où, encore une fois, je me pose la question de l'attitude, je ne dis pas que c'est une mauvaise attitude de la part d'Alain Juppé, mais je me pose la question de la capacité de l'électorat de Nicolas Sarkozy à rallier un candidat comme Alain Juppé.
Pascal Perrineau.
Oui, vous savez, il faut penser à ce qui s'était passé à gauche et à ce que l'on disait en 2011. En 2011 aussi, on disait, mais comment vont-ils faire pour se rapprocher après s'être affrontés pendant des semaines? Souvenez-vous de Martine Aubry qui parlait du candidat mou. Elle disait, quand il y a du mou, c'est qu'il y a un loup. Bon, voilà. C'était aussi un combat à fleuret, à peine moucheté parfois. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas considérer, il y en aura peut-être, parce que la campagne qu'a choisie la droite et le centre est une campagne très longue. On va voter simplement à la fin du mois de novembre. Donc il y a le temps pour les dérapages, et on sait que la droite, en l'occurrence, dans le passé, a su déraper et se tirer elle-même une balle dans le pied. Souvenons-nous de l'affrontement Copé-Fillon.
François Hollande a quand même fait beaucoup d'efforts pour attirer à lui les électeurs de Martine Aubry. Rappelons-nous la taxation à 75%, et mon ennemi c'est la finance, mais la taxation à 75% des hauts revenus, il a proposé des mesures assez fortes pour attirer cet électorat-là. Je ne sais pas si Alain Juppé et Nicolas Sarkozy seront capables d'aller
Je crois aussi loin. Que, si vous voulez, le moment venu, en particulier entre les deux tours, on parlera beaucoup économique et social. Et là, sur l'économique et le social, il n'y a pas de très profonde différence entre tous les candidats. Et c'est peut-être là qu'on découvrira que sur le terrain sociétal, sur le terrain de la fameuse réflexion sur l'identité, ce sont plus des mots, des postures qu'autre chose. Est-ce que véritablement, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, s'il était élu, mettrait en œuvre ce qu'il nous laisse deviner derrière ses thèmes sur les Gaulois, etc. Personnellement, je ne le crois pas, si vous voulez. Je crois qu'il y a là beaucoup de postures un peu théâtrales, qui d'ailleurs peuvent lasser et énerver, on le sent hein, dans les enquêtes, une partie des candidats qui se disent tout de même, même ces thèmes-là, il faut les aborder de manière plus, comment dire, plus sérieuse, quoi. Hein. Ils ont été un peu déçus de ces dérapages. Mais pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy s'adresse vraiment au noyau dur. Il s'adresse à ce qui... C'est vrai que ça existe au sein des Républicains, un véritable fan club qu'il a derrière lui, parce qu'il veut les mobiliser. Mais le problème, c'est que pour l'instant, toutes les enquêtes montrent que cette mobilisation sera beaucoup plus large que celle du seul fan club.
Hubert Bertas.
Mais je rebondis d'ailleurs sur ce que dit vient de dire Pascal Perrineau sur la question que vous posiez tout à l'heure. Hein, est-ce qu'au fond il faut tenir compte de ce que disent les candidats? Est-ce qu'ils vont le mettre en œuvre? Est-ce qu'on n'a pas un discours de premier tour et un discours de second tour? Je voudrais quand même rappeler que les politiques qui sont extrêmement discutées en ce moment et depuis assez longtemps et de plus en plus sont en face des électeurs, dans cette affaire comme dans d'autres élections. Or, face aux électeurs, ils auraient un discours pour une semaine et puis, la semaine suivante, ça serait un autre discours. Donc, Alain Juppé, il dirait ceci, puis ensuite, il dirait cela parce que il faudrait qu'il s'adresse aux autres. Nicolas Sarkozy, il parle des Gaulois, mais non, après, il parlerait plus des Gaulois. Je crois que les Français qui sont agacés ne peuvent être qu'encore plus agacés devant ce qui ne ressemble pas à une manière de faire de la politique, mais de faire de la tactique.
Christelle Bertrand, vous adhérez à ce que vient de dire Hubert Bertas. C'est le risque, en tout cas, qu'il peut y avoir dans cette primaire de la droite et du centre.
Mais les Français sont agacés par la politique en général et pas uniquement par les primaires. Il y a une désaffection. J'ai gardé en mémoire de façon assez profonde une phrase prononcée par Xavier Bertrand qui a vécu de façon assez douloureuse sa campagne en région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il disait on n'arrive plus à leur parler. Enfin, faut se rendre compte. C'est-à-dire que la proportion de gens qui vont aller voter à la primaire, la proportion de gens qui vont aller voter à l'élection présidentielle va être ridicule. Et le grand drame, c'est bien celui-là, c'est que effectivement, dans les états-majors, on échafaude des stratégies, on se demande comment rallier tel parti, on segmente énormément les discours, là on va s'adresser aux classes populaires, là on va s'adresser au CSP+, là aux chefs d'entreprise, mais d'abord il manque une vision globale de la société, et puis on ne se demande surtout pas comment rattraper ceux qui sont partis, ceux qui ne votent plus, ceux qui n'écoutent, qui ne nous écoutent pas ce soir, qui n'écoutent plus les émissions politiques parce qu'ils n'y croient plus. Et je pense qu'au-delà de l'enjeu de la primaire, ça va être bien ça, l'enjeu de la présidentielle, c'est comment faire en sorte que le président soit élu par suffisamment de Français pour que sa politique soit suivie. C'est une inquiétude, par exemple, chez Alain Juppé, qui dit si on est élu sur l'anti-sarkozisme comme François Hollande l'a été, on n'y arrivera pas. On ne fera pas passer les réformes qu'on veut, on ne sera pas suivi, on ne peut pas prendre ce risque-là. Parce qu'il y a eu une tentation, effectivement, dans l'entourage d'Alain Juppé, de dire laissons Nicolas Sarkozy se caricaturer lui-même. Et on voit qu'en effet, l'expérience de la semaine autour de la phrase des Gaulois, il a plutôt baissé dans les sondages, et particulièrement chez ceux qui visaient, c'est-à-dire les électeurs du Front National, il a perdu des points. Donc, en effet, l'équipe d'Alain Juppé pourrait prendre ce risque-là, mais je pense qu'ils pensent à l'étape d'après, ils se disent, mais voilà, François Hollande a échoué parce qu'il a été élu sur l'anti-sarkozisme. On ne peut pas prendre ce risque. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ?
La primaire de la gauche il y a 5 ans et le quinquennat qui s'achève, ce seront aussi des repères pour la primaire de la droite, Pascal Perrineau ?
Ah bien sûr, d'ailleurs vous savez, moi ça m'a frappé, j'ai regardé attentivement l'organisation concrète de cette primaire. C'est du copier-coller de la primaire dite citoyenne de la gauche en 2011. Ils se sont inspirés directement de cette procédure, c'est-à-dire qui a marché. Hein, c'est une procédure qui a marché, 2 700 000, si ma mémoire est bonne, électeurs, et un parti socialiste qui renaît de ses cendres, parce que souvenez-vous, après l'affaire DSK, voilà, c'était pas évident d'imaginer la suite. La droite, quelque part, même si elle a connu des crises, est presque en meilleure position. Oui, il y a une continuité, et puis il y a aussi cet élément étrange. Qu'est-ce que ça donnera à terme? Ça mériterait une autre émission. La primaire qui vient des États-Unis, est un mécanisme qui peu à peu s'implante dans nos institutions. Tout le monde s'y met, sauf le Front National. À peu près toutes les familles vont fonctionner par primaire. Qu'est-ce que ça va changer ? à la Ve République, à l'esprit de la Ve République. Ça, c'est une vraie question.
Et vous nous avez donné un thème pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Merci à vous, Christian Bertrand, et à Hubert Bertas, ainsi qu'à nos camarades de France Bleu Vaucluse à Avignon. La primaire de la droite et du centre, ce sera aussi le thème demain des matins de France Culture avec Guillaume Herner à partir de 7h. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolte Sicard. Mission réalisée par Anne-Laure Chanel, avec à la prise de son Dofar Guéride. Demain, de quelle égalité les ultramarins ont-ils besoin? Ce sera la question que nous poserons à la faveur du projet de loi examiné à l'Assemblée nationale sur l'égalité des territoires d'outre-mer.